Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet après-midi consacré aux placements et aux marchés financiers. Au sommaire, le retour de l'inflation aux États-Unis complique la stratégie de la Réserve fédérale. Son président Jerome Powell reconnaît que les membres de la Fed n'ont pas suffisamment de visibilité sur les perspectives d'inflation pour anticiper une baisse de taux. De quoi relancer les spéculations sur un statu quo monétaire qui pourrait se prolonger jusqu'aux élections américaines en fin d'année. La BCE, de son côté, peut-elle jouer sa propre partition et baisser ses taux de manière indépendante? Christine Lagarde a rappelé une nouvelle fois qu'elle était data dependent, c'est-à-dire dépendante des données macroéconomiques et non pas de la Réserve fédérale américaine. Mais est-ce totalement vrai en pratique? On en débattra avec nos invités du club tout à l'heure à partir de 17h. Et puis c'est la saison des assemblées générales d'entreprises. Est-ce que le risque climatique et leur stratégie environnementale vont de nouveau occuper une partie des débats? Dans quelle mesure est-ce que le Say on Climate peut porter ses fruits du côté des entreprises? La directrice de Novetic nous apportera son analyse tout à l'heure à 16h20. Mais pour l'heure, il est 15h32. L'ouverture des marchés américains comme tous les jours avec nos deux spécialistes. Étienne Braque en direct du siège d'Euronext, John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour à tous les deux, je suis ravi de vous retrouver. Étienne, la séance vient de démarrer il y a 2 minutes aux États-Unis.
Et c'est du vert, notamment pour l'indice Nasdaq qui grappille 0,5% à la porte des 16 000 points. Vous avez le Dow Jones qui prend 0,3% à 37 934 points, quand le S&P 500 prend également 0,5% à 5 074 points. Le S&P 500 et le Nasdaq qui sortent de 3 séances dans le rouge. À noter que l'obligataire se détend, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le marché action. 4,62, c'est une perte de 4 points de base, quand le 2 ans de son côté perd 2 points de base à 4,95. Du côté des devises, vous avez l'euro-dollar qui essaye de se prendre un petit peu, 1,0645. Alors que vous l'avez dit, Jerome Powell hier a une nouvelle fois éloigné les baisses de taux en disant eh bien, que les taux pourraient rester ainsi autant de temps que nécessaire, et puis surtout que les dernières statistiques macroéconomiques n'avaient clairement pas renforcé la confiance des membres quant à l'objectif de rejoindre rapidement l'objectif de 2% d'inflation. Du côté des valeurs aujourd'hui, dans un instant on parlera de United Airlines qui s'envole, hein. John nous expliquera pourquoi. Mais juste avant, un coup d'œil quand même sur l'une des stars de ces derniers mois à Wall Street, c'est Eli Lilly, hein. Vous savez, grâce notamment à son traitement anti-obésité, eh bien aujourd'hui, ce premier laboratoire mondial en termes de capitalisation boursière annonce des résultats prometteurs, notamment pour l'apnée du sommeil. Donc suite à cela, eh bien vous avez ce titre qui se rapproche de son record historique à 761 $ à l'instant. Et puis, autre valeur aujourd'hui à surveiller, c'est Tesla, hein, qui a perdu 8% en l'espace de 2 séances et qui continue aujourd'hui de sous-performer, avec le groupe qui va soumettre à nouveau à ses actionnaires un plan de rémunération en ce qui concerne Elon Musk. Une grosse bataille avec la justice, hein, qui, souvenez-vous, avait débouté Elon Musk au point qu'il avait décidé de déplacer le siège de la société. Et ce titre Tesla qui perd 0,6% dans les premières secondes de cotation, et donc une tendance positive à Wall Street avec 3 indices américains qui gagnent entre 0,4% et 0,5%.
Et c'est le rebond également sur le marché parisien. Le CAC progresse de 1,45%. On est repassé très nettement au-dessus de la barre des 8000 points qu'on avait cassé hier. On y reviendra en détail tout à l'heure à partir de 16h. Toujours avec vous, Étienne Braque. John Plassard, on va s'intéresser d'abord aux publications macroéconomiques du jour. Les demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis, elles ont augmenté de 3,3% sur une semaine. Je crois que la semaine précédente, on était pratiquement inchangé. Mais surtout, le taux moyen à 30 ans, il est à 7,13%. Et ça, c'est un plus haut niveau depuis décembre dernier.
Exactement, et Étienne, ce que ça nous dit en fait, c'est que on pourrait se dire qu'avec des taux hypothécaires si élevés, vous savez que les Américains bloquent à 30 ans leurs taux hypothécaires, mais on pourrait se dire qu'avec des taux hypothécaires aussi élevés, eh bien les Américains ne feraient pas de demande de prêt hypothécaire. Mais apparemment, cette hausse de 3,3% que vous avez relevé, eh bien traduit le fait que les Américains aimeraient bloquer un taux avant que potentiellement celui n'aille plus haut, celui-ci n'aille plus haut à 30 ans. Donc on voit qu'on a un rebond. Il faut rappeler ici, on avait parlé hier ensemble, Étienne, que les mises en chantier avaient nettement baissé aux États-Unis. Donc on voit qu'il se passe quelque chose sur le secteur immobilier et que les taux élevés qui vont continuer à être élevés, eh bien, commencent à impacter le consommateur américain.
Et on verra tout à l'heure dans le club justement comment cette évolution peut influencer la Fed, peser sur la décision de laisser ou pas les taux inchangés jusqu'aux élections américaines. Étienne, justement, on va continuer de parler des banques centrales, on va garder un œil aujourd'hui sur la Fed avec la publication ce soir de son fameux livre beige.
Le tout à 15 jours de sa prochaine réunion, puisque ça sera le mercredi 1er mai que Jerome Powell prendra la parole. Alors, comme toujours, John Plassard, 15 jours avant chaque réunion, il y a ce fameux livre beige qui est publié par la Federal Reserve. Ça donne un petit peu un coup d'œil hein, de ce qui se passe dans chaque État des États-Unis d'un point de vue macroéconomique.
Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus important que les minutes qui sont publiées après la réunion de la Réserve fédérale américaine, puisqu'on sait exactement quelles sont les vigueurs, vous l'avez dit, dans les différents États des États-Unis. Eh bien, ce soir, très certainement, le fameux Beige Book va nous indiquer que l'économie américaine est beaucoup trop virulente, que ça se traduit notamment par la hausse des ventes au détail, par l'inflation qui est trop élevée, et vous avez des données relatives à l'emploi qui sont beaucoup trop élevées. Donc on va être dans une situation où aujourd'hui, eh bien, plus aucune baisse de taux ne sont à prévoir pour juin prochain. Pour l'instant, le consensus parie sur 40 points de base de baisse avant la fin de l'année, mais il faut rappeler qu'en début d'année, on était à 160 points de base. Et vous vous souvenez, on en a parlé ensemble aussi, Étienne, eh bien, ce fameux no landing. Vous savez, on était dans le hard landing, le soft landing. Maintenant, on est dans le no landing où potentiellement, eh bien, la Réserve fédérale américaine, à cause des données statistiques trop importantes qui vont certainement être relayées ce soir à travers le Beige Book, pourrait ne pas baisser les taux avant la fin de l'année.
Et justement, John, on a repéré votre tweet, votre publication sur le réseau social X. On y reviendra d'ailleurs dans la famille tout à l'heure à partir de 16h30. On débattra autour de cette question du no landing. 15h39 bientôt, rendez-vous quotidien sur notre antenne, les élections américaines. Nous sommes à 201 jours du scrutin aux États-Unis et on va s'arrêter aujourd'hui sur un chiffre qui aiguise un petit peu notre curiosité. Il s'agit du salaire de Joe Biden qui vient d'être publié. John, je vous laisse annoncer ce chiffre. Ça gagne combien un président américain en exercice ?
Bah écoutez, c'est une très bonne question et le chiffre, je vais vous le donner. Pourquoi ? Parce qu'il est public, ce chiffre. Le dépôt avait été fait hier, c'était le dernier moment pour faire ses impôts. Et tenez-vous bien, un président américain gagne par année 400 000 dollars. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que la première dame, c'est-à-dire la femme de Joe Biden, elle a gagné 219 000 dollars parce qu'elle travaille aussi, elle est professeure, notamment dans une université aux États-Unis. Et donc le couple a déclaré hier un salaire de 619 000 dollars. Et dessus, ils ont payé un impôt fédéral de 23,7%. Alors, ce qui est très intéressant de noter, c'est que vous allez me dire, pour un président américain, 400 000 dollars, c'est pas énorme. Eh bien, on sait que c'est lorsqu'il arrêtera, Joe Biden, lorsque le président arrête et qu'il fait des conférences, comme l'avait fait notamment Bill Clinton, et c'est là qu'il gagne de l'argent, ou lorsqu'il écrit un livre. Et pour la petite anecdote, il faut rappeler une chose assez intéressante, c'est lorsque Donald Trump était président, il avait renoncé à ses 400 000 dollars. dollars, puisque vous savez très officiellement que Donald Trump est milliardaire et qu'il avait dit qu'il ne valait, ça ne valait pas la peine d'avoir un salaire en tant que président des États-Unis.
400 000 dollars, est-ce qu'il paye à la cantine de la Maison-Blanche, vous pensez, John?
Je ne pense pas, mais peut-être pour un extra de dessert. Oui, on sait qu'il aime beaucoup le chocolat, Joe Biden.
Allez, on passe à l'actualité entreprise avec Étienne. Vous le disiez, Étienne, en démarrant cette demi-heure, de très très bonnes nouvelles ont été annoncées dans le secteur aérien.
À commencer par United Airlines qui s'envole, sans mauvais jeu de mots, de 10% aujourd'hui. Alors bon, c'est vrai que c'est compliqué, John Plassard, pour United Airlines. Hein. Depuis le début de l'année, le titre fait rien, il fait rien depuis un an. Et pourtant, la dynamique est très bonne, que ce soit pour l'entreprise, mais dans le secteur, pour son ensemble, on l'a encore vu hier avec des statistiques qui montraient que le secteur du voyage est en pleine forme.
Oui, oui, un bénéfice, Étienne, qui est largement au-dessus des attentes. Le bénéfice ajusté sera pour le prochain trimestre entre 3,75 et 4,25 dollars. Alors, tenez-vous bien que le consensus attendait 3,76 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que United Airlines nous dit que les demandes pour les voyages sont très importantes. On vous l'avait dit, on en a parlé hier. Les Américains ont il y a un nombre record d'Américains qui veulent traverser l'Atlantique ou aller dans d'autres pays que les États-Unis. Ben là, on apprend aussi qu'au niveau domestique, les Américains ont déjà fait des réservations. Donc, pour le secteur du tourisme, c'est une très, très bonne nouvelle.
On continue dans l'actualité entreprise avec ce médicament, John, qui n'en finit pas d'intéresser, évidemment, les investisseurs, médicament contre l'obésité. Et le laboratoire Eli Lilly a annoncé que son médicament contre l'obésité avait également produit des résultats concluants sur les patients atteints d'apnée du sommeil.
Oui, c'est un médicament absolument extraordinaire dans tous les sens du terme. Il s'appelle le Zepbound. On sait que c'est un médicament d'abord pour les diabétiques. Maintenant, il est utilisé aussi contre l'anti-obésité. Mais on sait qu'il réduit apparemment, c'est ce qu'on nous a dit hier, la fréquence de la respiration irrégulière chez le patient souffrant d'apnée du sommeil. Vous l'avez dit, jusqu'à 63% en moyenne dans le cadre de deux essais en phase finale. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce que ce médicament n'est pas simplement pour perdre du poids, mais il est pour les diabétiques et aussi pour l'apnée du sommeil. Donc, très bonne nouvelle pour Eli Lilly ici.
Et puis, Étienne, on termine toujours dans l'actu entreprise avec un chiffre qui concerne le secteur de la communication et de la publicité aux États-Unis.
Et après Publicis la semaine dernière, c'est Omnicom qui dévoile son chiffre d'affaires du premier trimestre. Et ça a plu au marché aujourd'hui, John Plassard, puisque la valeur gagne 1,6%.
Oui, c'est assez intéressant de le noter parce que on sait que c'est un acteur qui offre des services de publicité, de marketing et de communication. Et puis, on a un chiffre d'affaires qui est sorti largement supérieur aux attentes grâce à la forte demande de ces services de publicité. Et vous savez qu'en fin d'année passée, eh bien, on parlait de plus en plus de la baisse de la publicité, des demandes de publicité parce que les budgets devenaient de plus en plus faibles chez les annonceurs. Eh bien, on voit ici que la demande est en train de reprendre. Donc, c'est une nouvelle, très bonne nouvelle au niveau économique pour les États-Unis et pour, bien évidemment, Omnicom.
Merci beaucoup, John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Étienne, merci également. On se retrouve tout à l'heure à 16h. On fera un tour d'horizon des valeurs qui se distinguent aujourd'hui à la Bourse de Paris. 15h44, la Bourse cash. Aujourd'hui, c'est avec Benoît Péloil, directeur des investissements chez Natixis Wealth Management. Bonjour.
Bonjour Céline.
Votre punchline, la phrase que vous êtes venu défendre en plateau, vous dites « Attention, le risque inflation revient ». Vous confirmez ?
Je confirme, oui, aux États-Unis en tout cas.
Alors vous nous dites ça, mais pour l'instant, dans la zone euro, les prix à la consommation continuent de reculer. On a eu, en tout cas, l'inflation continue de ralentir. On a eu les chiffres du mois de mars confirmés aujourd'hui, 2,4%. On était à 2,8% en janvier, 2,6% au mois de février. En Europe, ça n'est pas ou pas encore un problème.
Non. Ce qui implique justement une situation avec laquelle on est peut-être un peu plus confortable en Europe, notamment sur ces attentes de baisse de taux promises par les banques centrales.
Alors aux États-Unis, en revanche, la musique est différente. On a eu une déclaration de Jerome Powell, on en parlait il y a quelques minutes, qui disait hier soir que les membres de la Fed n'étaient pas suffisamment confiants sur les perspectives d'inflation pour être en mesure de baisser les taux.
C'est juste, puisque quand on regarde ce qui se passe depuis à peu près 3 mois aux États-Unis, comme redouté, on a un retour des pressions inflationnistes. On pensait d'abord que c'était un effet très temporaire, lié au mois de janvier, aux matières premières, etc. Et puis on s'aperçoit que depuis 3 mois, l'inflation est supérieure aux attentes des analystes. L'inflation totale repart à la hausse, et l'inflation retraitée des matières premières, l'inflation cœur, a cessé justement sa décrue. Et quand on regarde, on annualise ces chiffres des 3 derniers mois, on est assez loin de l'objectif de la Banque centrale. Et surtout, ce qui nous semble plus problématique, c'est que l'inflation qui se concentre justement dans les services cœur, retraités de l'immobilier, ce qui représente les 2/3 de l'économie aux États-Unis, elle rebondit, elle accélère même très significativement, puisqu'elle est autour de 5% aujourd'hui.
Mais il vient d'où ce retour de l'inflation ?
Eh ben écoutez, en fait, il revient probablement déjà d'une politique budgétaire qui est très, voire trop expansionniste aux États-Unis. On a un gouvernement américain qui dépense très significativement. Sur l'ensemble de l'année 2023, ils ont ajouté à peu près 2500 milliards de dettes, un stock qui représente 34 000 milliards de dettes.
Et le rythme est impressionnant. On a eu
exactement.
Le chiffre il y a pas très très longtemps, mais la dette américaine augmente de 1000 milliards de dollars tous les 100 jours.
Exactement, alors qu'on est dans une économie qui est quasi au plein emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un déficit public de l'ordre de quasi 7% aux États-Unis, on a un gouvernement américain qui dépense comme si on était dans une situation de récession sévère. Et donc, on a un conflit de politique économique entre une politique monétaire qui se veut restrictive, qui n'est pas vraiment en réalité, et une politique budgétaire qui, elle, dépense sans compter.
Y a d'autres facteurs qui expliquent ce retour de l'inflation ?
Oui, la politique monétaire a probablement sa part de responsabilité, puisque effectivement on a remonté les taux d'intérêt. On peut le constater. Ça coûte aujourd'hui beaucoup plus cher pour aller faire un crédit immobilier ou un crédit auto. Mais la politique monétaire, c'est pas uniquement l'effet direct des taux d'intérêt. C'est aussi tous les effets indirects qui sont produits par ces taux d'intérêt plus élevés. Et c'est notamment la pression qu'on met sur le secteur bancaire, puisque remontant les taux d'intérêt, on dégrade les bilans bancaires, donc on réduit leur capacité de prêt. C'est aussi des conditions de liquidité qui sont censées être dégradées sur les marchés, ce qui réduit la capacité de les conditions de financement qu'on obtient sur les marchés. Or, on s'aperçoit que sur ces paramètres-là, les conditions de liquidité sur les marchés, elles sont restées finalement très très bonnes.
Est-ce que ce risque, il menace également l'Europe ?
Alors, il est dans une moindre mesure probablement en Europe, ce risque, puisqu'on a un cheminement qui est beaucoup plus classique dans ce qu'on constate dans l'histoire économique, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, en Europe, on est face à une économie qui a réalisé son atterrissage. La croissance européenne est proche de zéro, elle a significativement freiné. La dynamique des salaires, et même si elle reste encore problématique, elle est relativement différente. Et donc, on a quelque chose de plus cohérent qui autorise à avoir plus de confiance dans les baisses de taux qui sont promises justement par la Banque Centrale Européenne.
Alors, quelles conséquences en matière de politique monétaire ? D'abord aux États-Unis, est-ce que vous croyez à l'hypothèse d'un statu quo de la Fed qui pourrait se prolonger jusqu'aux élections au mois de novembre ?
Ce qui va être très difficile, c'est que dans ce contexte-là, pour la réserve fédérale américaine, ça va être très compliqué de pouvoir délivrer les baisses de taux qui sont promises. En tout cas, ce n'est pas un environnement qui l'autorise.
Les anticipations de marché aujourd'hui sont entre 1 et 2 baisses cette année.
C'est ça.
On était à 6 au début de l'année.
Exactement. Et donc, ce contexte-là ne plaide pas pour justement permettre ces baisses de taux de la part de la réserve fédérale américaine.
Est-ce qu'elle s'est engagée, d'une certaine manière ?
Elle s'est montrée en tout cas assez explicite, notamment en confirmant ses baisses de taux tout en augmentant ses anticipations de croissance lors de la dernière revue de ses projections et en augmentant justement l'inflation, ses anticipations d'inflation. Elle avait confirmé justement cette entrée dans un cycle de baisse de taux. Donc elle s'est un petit peu engagée justement.
Quelles conséquences pour la zone euro ? Christine Lagarde a rappelé hier soir ce qu'elle avait déjà dit. Elle est data dependent et non pas Fed dependent. C'est-à-dire qu'elle regardera les données macroéconomique, mais elle n'est pas dépendante de la réserve fédérale américaine. En pratique, on sait quand même que les choses ne sont pas totalement décorrélées. La BCE aura forcément une limite dans son mouvement de baisse de taux si la Fed ne bouge pas.
C'est très juste, mais contrairement à ce qu'on voit historiquement, on s'aperçoit que la situation en Europe et aux États-Unis est très différente. Encore une fois, l'économie européenne a déjà atterri. Elle ne justifie plus de maintenir une politique monétaire aussi resserrée. C'est une économie qui va justement... La Banque Centrale Européenne va devoir justement accompagner la stabilisation de l'activité, voire le début d'amélioration de l'activité. Le risque, c'est effectivement d'augmenter la problématique de l'inflation importée à travers justement les devises. Mais en tout cas, la situation en Europe autorise d'anticiper des baisses baisse de taux plus tôt que aux États-Unis.
Pour le mois de juin, en Europe, la date, le rendez-vous est déjà pris. La BCE devrait baisser ses taux de 25 points de base. Est-ce qu'on peut envisager qu'il n'y ait finalement que deux baisses de taux cette année en Europe ? Si la BCE joue seule cette partition.
Oui, c'est tout à fait possible, puisqu'on voit que la plupart des économies dans le monde ont atterri, et c'est pas uniquement l'Europe. Et en fait, c'est vraiment l'économie américaine qui fait figure de, qui présente un véritable anachronisme. En réalité, ce dont les marchés sont en train de s'apercevoir, d'où la remontée probable de la volatilité au cours des prochains mois, c'est que pour permettre à l'inflation de revenir fondamentalement à son objectif, on ne peut pas faire l'économie d'un freinage de l'activité. Si on n'a pas ce freinage de l'activité, c'est extrêmement difficile de le faire. Tant que les États-Unis n'ont pas réalisé ce freinage, c'est effectivement difficile de le voir pour l'ensemble du marché.
Merci beaucoup, Benoît Pellewal, pour toutes ces explications, directeur des investissements chez Natixis Wealth Management. 15h51, Culture Bourse avec Julie Cohen et ses invités.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Vous connaissez le principe de ce rendez-vous pour savoir où aller en bourse. Il faut déjà savoir où est-ce qu'on en est. Et c'est l'objectif, Julie, de ce rendez-vous quotidien dans BFM Bourse.
Absolument. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Parce que oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire. Vous avez des questions pour structurer votre portefeuille d'investissement. Eh bien, ça tombe très bien parce que nous, on a plein d'experts pour vous donner des pistes d'investissement. Et vous le savez, désormais, vous avez deux options. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
Et aujourd'hui, on a une question, Julie, qui concerne la cybersécurité.
Absolument, et c'est Pierre qui s'interroge à propos de Verimatrix. Pierre, il nous rappelle que ça a beaucoup chuté depuis quelques années. Pourtant, il dit, il l'estime, il rappelle que c'est un secteur porteur, celui de la cybersécurité, et il veut savoir ce qu'il faut en penser. Eh bien, on va tout savoir grâce à notre expert du jour, et c'est Thibaut François pour Fastea Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Julie.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Thibaut, quel regard vous portez sur ce titre et peut-être plus largement sur ce secteur ? On a l'impression que Verimatrix peine à se stabiliser.
Alors je suis d'accord avec Pierre, effectivement le secteur est quand même ultra dynamique. On a un secteur qui a une croissance à plus de deux chiffres depuis quelques années, donc forcément des acteurs qui prennent de la croissance. C'est un secteur qui est assez large, la cybersécurité, parce qu'effectivement on peut attaquer un réseau informatique, on peut attaquer un site internet, on peut attaquer des applications. Donc il y a tout un tas de choses à sécuriser, et Verimatrix c'est spécialisé sur la partie application. Voilà, donc eux ils sont experts sur la partie application, donc toutes les applications qui sont un petit peu sécurisés le sont par Verimatrix ou par certains concurrents, mais en tout cas Verimatrix s'est vraiment concentré sur cette niche de métier dans un secteur, et je suis d'accord avec Pierre, qui est extrêmement dynamique depuis quelques années.
Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ce titre en portefeuille ? On reste prudent ou...
En fait, Verimatrix, le problème de Verimatrix, c'est qu'aujourd'hui, ils ne prennent pas de croissance. Ils ont pris une stratégie il y a quelques trimestres d'arrêter, on va dire, de faire du chiffre d'affaires à tout va. Et donc, ils se sont concentrés sur du chiffre d'affaires qui est récurrent. Et donc, le chiffre d'affaires récurrent, ils arrivent à faire de la croissance, sauf que le chiffre d'affaires qui n'était pas récurrent, ils font une décroissance de façon régulière. Donc, au final, ils ne prennent pas de croissance depuis quelques années. Donc, pour une boîte de croissance, pas prendre de croissance, c'est quand même problématique. Donc, ça baisse beaucoup depuis quelques trimestres. On a divisé par plus de 10 le cours de bourse sur Verimatrix. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a toujours pas de croissance sur Verimatrix. Donc, je pense qu'il y a mieux à faire dans le secteur. Voilà, donc le secteur, un grand oui. Verimatrix, peut-être dans quelques trimestres.
Bon, là, clairement, on ne peut pas faire plus clair. Merci beaucoup, Thibaut, pour Fastea Capital. Vous restez avec nous.
Avec plaisir,
on vous retrouve dans quelques minutes. Et puis, si vous êtes comme Pierre, si vous avez des questions, vous continuez évidemment à nous écrire. Et puis, vous pouvez aussi nous challenger sur les réseaux sociaux. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver en replay sur le site internet.
Alors, vous le savez, dans ce rendez-vous, on répond à vos questions, mais c'est aussi un moment de pédagogie financière, Julie.
Absolument, et notre pédagogue du jour, eh bien, c'est Benjamin Chemla pour Shares. Bonjour Benjamin, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, j'ai une question pour vous, messieurs, en plateau. Qu'est-ce que vous faites dans 2 jours et 9 heures ? C'est précis. Hein.
Alors moi, Julie, en tout cas, je serai branché pour suivre le 4e halving de l'histoire de la crypto-monnaie Bitcoin.
Et Thibaut, vous serez branché ou pas ?
Je ne sais pas ce que je vais faire dans 2 jours, mais je ne serai pas forcément devant mon écran.
Et vous, Stéphane ?
Peut-être.
Vous regarderez Amaury ?
Oui, bien sûr, comme tous les jours.
Ouais, évidemment.
Avec BFM Crypto, de 15h à 15h30. Mais c'est vrai que le halving, on en parle depuis longtemps, tous les 210 000 blocs.
Exactement, exactement. Et alors justement, en parlant de ce halving qui va arriver, qu'on attend un petit peu depuis plusieurs semaines, Benjamin, quand on parle du halving du Bitcoin, on parle de quoi précisément ?
C'est l'événement dont tout le monde parle en ce moment, qui anime un peu la planète éco, mais surtout la planète crypto. Vous avez raison. Donc, c'est quoi le halving? C'est un événement simple qui réduit en fait par deux, qui divise par deux les récompenses qui sont données aux mineurs qui valident des opérations sur la blockchain.
Et qui leur permettent de gagner des bitcoins.
Exactement. Et donc, il faut savoir que tous les 210 000 blocs, se produit un halving.
La récompense est divisée par deux.
Exactement. Et donc, ça fait à peu près tous les 4 ans. En 2009, quand le Bitcoin a été inventé, à l'époque, un mineur recevait à peu près 50 Bitcoins, précisément, en fait, en guise de récompense. Ça a été divisé, donc, à 3 reprises par deux. Et donc, pour la 4e fois, ça sera divisé par deux. Un mineur ne gagnera plus que 3,125 Bitcoins. Alors, historiquement, après chaque halving, les mineurs, donc un peu, il y a un momentum pour eux, vont mettre sur les marchés un nombre important de bitcoins en vente. Et ça explique souvent pourquoi le bitcoin ne bouge pas tout de suite. On a pu observer une montée importante du prix du bitcoin, mais généralement légèrement décalée dans les 3 à 5 mois qui ont suivi. La rareté étant tempérée par la mise sur les marchés soudaine d'un volume important de bitcoin. Alors en très rapide, 2016, dans les mois qui suivent, les années qui suivent, le bitcoin a connu une augmentation spectaculaire. Environ 4200%, donc énorme, jusqu'à presque 20 000 dollars. Et puis après le cycle de 2020, on a connu aussi une montée spectaculaire de plus de 700%. Donc à quoi s'attendre?
Et bah du coup, et à quoi s'attendre?
Certains donc prévoient une forte hausse à laquelle il faut peut-être se préparer. D'autres sont sceptiques. On entend même le chiffre de 150 000 dollars avant la fin de l'année, peut-être à voir. En tout cas, les données cette fois-ci sont un petit peu différentes pour deux raisons. La première, c'est que début janvier, il y a eu un événement majeur qui est l'arrivée d'ETF Bitcoin émis par BlackRock, les fameux ETF Bitcoin Spot. Et donc, c'est quand même la financiarisation de l'économie crypto avec la capacité maintenant d'investir par le véhicule de l'ETF. Et donc, c'est aujourd'hui près de 4% des volumes de Bitcoin à peu près dans le monde qui sont détenus par l'intermédiaire d'ETF. La deuxième chose, c'est l'anticipation du halving. Donc autant de raisons qui font que depuis le début de l'année, le prix du Bitcoin a déjà augmenté de près de 48%. Donc c'est la première donnée qui est un peu différente. Et puis l'autre élément intéressant, c'est d'observer que à nouveau en revanche, la semaine est plutôt baissière avec près de 8% de baisse depuis une semaine sur le Bitcoin. Donc à suivre.
Et alors très très rapidement, pourquoi c'est si important le halving ?
C'est fondamental parce que le halving touche finalement au fondement même de ce qu'est la crypto-monnaie par opposition aux monnaies fiduciaires. Le Bitcoin est une monnaie qui est un actif limité. Il ne peut pas y avoir plus de 21 millions de Bitcoins en circulation. C'est extrêmement...
C'est dans le protocole.
Voilà, c'est dans le protocole. Et donc ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, c'est que ce système qui tend à réduire le nombre de nouveaux Bitcoins produits par le halving tous les 4 ans, en fait, crée un phénomène de rareté. Et donc, comme on dit souvent, ce qui est rare est cher. Donc, on est dans les fondements même de cette économie. Et donc, à suivre peut-être vendredi soir, quel va être l'impact de ce halving.
Suspense. Merci beaucoup, Benjamin Chemla pour Shares. On vous retrouve très prochainement pour décrypter une nouvelle notion financière.
Et Thibaut, vous restez avec nous dans un instant. On va s'intéresser à la séance en cours à la Bourse de Paris. Le CAC progresse de pratiquement 1,6%. Pratiquement effacé la baisse d'hier. Le CAC est repassé au-dessus des 8000 points. On parlera notamment d'LVMH qui a présenté son chiffre d'affaires hier soir après la clôture. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.